Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor? Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
Est-ce que t'aboies tout le temps? Dire ok. Où est-ce que tu m'as?
Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission de Ciné Primitif. Comme d'habitude, en compagnie de Davy et Bobo.
Salut tout le monde.
Bonsoir.
Et comme d'hab, on va présenter 6 films et leur bande son. Aujourd'hui, autour du thème huis clos, un thème que j'avais choisi.
Oui, tout à fait.
On est sur des espaces confinés.
Tout à fait. Et pour commencer, cette émission huis clos, j'ai pas trouvé... que Buried, jeune gens sorti en 2010, réalisé par Rodrigo Cortés, qui a fait Red Light. Mitigé, film mitigé. J'invite à le regarder. À la distribution, un seul acteur, Ryan Reynolds. Qu'on peut voir dans le Green Lantern, que j'aime beaucoup, The Voices, que j'adore, et dans Deadpool, dont je suis beaucoup moins fan. Sur le synopsis, tout simplement, vous ouvrez les yeux, vous êtes enterré vivant sous une tonne de terre irakienne avec 90 minutes d'oxygène et une seule connexion vers l'extérieur, c'est avec votre téléphone portable à moitié rechargé, qui est en langue étrangère, bien évidemment. Tel est le destin de Paul, chauffeur routier américain, pris en otage et enfermé dans une boîte, dans un cercueil. Le temps file et chaque seconde qui passe le rapproche d'une mort certaine. J'ai choisi ce film et moi je l'avais vu à l'époque où je travaillais au cinéma. Et je l'ai vu au cinéma, on était 3 dans la salle. Au bout de 10 minutes, il y a une personne qui sort qui était pas bien.
Au bout de 10 minutes, il n'y avait toujours pas d'image.
Ouais, non, mais c'est
ça. Ah oui, en plus, c'était dans le noir au début. C'est clair, au briquet.
Il avait peur, donc s'est retrouvé à deux. Non, j'ai été vraiment un peu traumatisé en sortant de ce film. À voir dans des conditions vraiment spécifiques. Le regardez pas en pleine journée, ça a aucun sens. Par contre, regardez-le bien à 23h avant d'aller vous coucher. Ça va bien vous détendre.
Enfermez-vous dans un placard.
Voilà.
Pour lui mettre dans l'ambiance. Mettez-le à plat, le placard.
Là, vous allez voir ce que c'est qu'un huis clos.
C'est bien. Ça colle au thème.
C'est ça. Donc, c'est un film qui a été filmé entièrement sous terre, dans un cercueil. Et afin d'augmenter le réalisme, les prises étaient de 6 minutes, avec un engagement sur le tournage très intensif. Ryan Reynolds, après le tournage, il est rentré, il était exténué de ce tournage de film.
Mais il y a moyen, il est toujours allongé.
Ouais, c'est ça.
Pas combien il y a eu de semaines de tournage.
Alors après, effectivement, c'est un film, faut pouvoir tenir 1h30 je filme un mec dans un cercueil.
Le pari est tenu pour le coup.
Faudrait pas qu'il soit plus long par contre. Parce que
non,
tu décroches un peu.
Après, tu vois, c'est parce qu'il faut qu'il tienne sur les 1h30. Ouais. C'est pour ça qu'il y a 5 minutes où déjà t'as 3 minutes de générique animé. Je te dis, mais pourquoi? Après, t'as 2 minutes de noir.
Ouais.
Mais c'est pour tenir sur l'heure et demie, je pense. Mais
en tout cas, ouais, t'as la tension tout le long du film. T'es sous pression et il se passe toujours des choses et des rebondissements.
Après, le problème de ce genre de film, c'est que tu ferais pas les mêmes choix. Genre allumer un feu dans un cercueil.
Ouais.
Sachant que le feu, ça prend quoi? L'oxygène.
Ouais, mais sinon, rien. C'est il pense au spectateur.
Non, il brûle, il fout le feu au bout d'un moment.
Mais effectivement, il y a cette peur du noir.
Ça, et pas changer la langue du téléphone. Il faut 1 heure de film pour penser. Ah tiens, peut-être changer la langue du téléphone.
C'est ce qu'il y arrivait. Je pense qu'il y arrivait pas. Il s'est dit, je vais économiser la batterie.
Non, mais d'un moment, il fait, ah tiens, il y a la clé à molette. Je vais tuer.
Moi, j'adore, c'est son premier coup de fil où il tombe sur, je sais pas quoi, la sœur de sa femme ou je sais pas quoi, où il s'embrouille.
Il lui raccroche à la gueule.
J'adore.
C'est mal barré déjà pour lui.
Après, c'est quand même un film qui s'est inspiré fortement de Hitchcock, notamment sur ses films Lifeboat, dont toute l'action se passe sur un bateau en mer, ou encore La Corde, filmé en temps réel et en un seul plan séquence. Là, effectivement, c'est pas un film qui a été tourné en plan séquence. Il y a plusieurs séquence. Hein.
Oui, justement, le montage est très, très speed. Mm.
Ouais.
Il est vraiment speed, là, pour le coup. Et c'est pour ça que tu te dis qu'il y a beaucoup de prises. Et je me dis qu'il a dû en retourner beaucoup dans la journée.
C'est ça. J'ai envie de vous dire, c'est le seul à avoir fait ça.
Ouais, c'est ça. Au
moins, c'est un film où c'est
osé. Oui, t'as 127 heures qui est un peu aussi en même concept. Ah, ouais.
Mais
le montage est à contre-courant de celui-ci. 127 heures, ça prend le temps pour vivre les séquences de souffrance.
De Danny Boyle, c'est ça.
Avec
James Franco.
James Franco, je cherchais ça.
Ouais. Mais après, c'est pas du tout le même supplice.
Non. Non, voilà. Bien sûr.
Et donc, la peine n'est pas la même, la souffrance n'est pas la même.
Mais tu suis vraiment une personne seule aussi, qui est dans bloquée, quoi.
Voilà. Par contre, ce qui était intéressant, c'était une première mondiale pour sa sortie française. Buried a été lancé par un buzz sur la toile avec une première bande-annonce interactive proposant aux internautes de se faire appeler directement par le héros du film sur leur portable. Après, Ryan Reynolds, je l'ai trouvé vraiment bon là-dedans. En mode panique. Ouais, mais en mode panique, je l'ai trouvé bon. Et puis, en même temps, il n'a pas de concurrence avec les autres acteurs. Hein. Voilà, mais pour moi c'est un film à voir fois.
Quand je me suis vu mal au rythme, j'ai eu vraiment peur au début. Hein. Quand j'ai vu le générique qui commençait par 3 minutes d'images d'animation où ça te met plein le réalisateur, le producteur et tout, alors que tu sais très bien qu'il n'y a qu'un seul mec dans. Et qui t'arrive à te prendre un générique d'intro de 3 minutes, suivi de 2 minutes de noir. Après, une fois que tu passes ça, je trouve que le rythme ça va, c'est ok.
Comme je te dis, moi je l'ai vu au ciné, il est sorti, je suis allé le voir tout de suite. Je connaissais pas le synopsis, je connaissais rien du tout. Je suis allé le voir, je me suis mis dans la salle. Et en fait, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Vraiment, il m'a fait mal celui-là. Voilà.
Je te propose qu'on passe à la musique que tu as choisie pour ce film.
Oui, donc une musique de Victor Reis. J'ai choisi Don't Be Sorry, Just Help Me.
Et de retour dans Ciné Primitif, c'était le film présenté par Bobo.
Oui. Buried avec Buried. La musique de Victor Reis.
Et on passe au film suivant sur le thème huis clos.
Ouais, et ça sera Zombie, une des masterclass de George Romero, sorti en 1978. George Romero, c'est un réalisateur américain d'origine italienne et qui aura vraiment beaucoup percé après son premier film, La Nuit des Morts Vivants. Zombie étant sa suite naturelle. qui va poser les bases de beaucoup de films de zombies. Mmh. Ce film a coûté 500 000 dollars, il a rapporté 50 millions au box-office, c'était une grosse réussite. Ah ouais. Pour la version que je vous ai fait regarder, la version sortie en Europe, la musique c'est Les Goblins. Génial groupe. Voilà, dans les acteurs principaux, il y a Ken Foree qui joue Peter. On le voit aussi dans Devil Ray Jack que t'as présenté à Arnaud, celui qui tient la maison close.
Ah ouais, ok, ouais.
Et Tom Savini, bah, c'est le chef des bikers. C'est aussi le maquilleur du film et le maquilleur de la plupart des films de George Romero, de Vendredi 13, de plein de...
Et t'as pas, à un moment donné, tu sais, dans les assaillants, quand ils sont au centre commercial, le mec qui joue dans... Une nuit en enfer. Si,
c'est justement Tom Savini.
J'étais pas certain, mais bon, je suis pas à côté de la
plaque. C'est celui qui est un des plus gros maquilleurs, du moins reconnus au cinéma aux États-Unis. Donc, je vais résumer l'histoire avec un petit synopsis. Donc, on est vraiment sur une suite plus ou moins directe de La Nuit des Morts Vivants. Alors qu'une épidémie transforme la population en morts vivants cannibales, quatre survivants trouvent un refuge dans un centre commercial abandonné. À l'abri des zombies et avec accès à une abondance de biens matériels, ils tentent de recréer une vie normale. Mais cette illusion de sécurité et de confort va progressivement se fissurer. L'isolement, la peur et la pression constante des morts vivants à l'extérieur mettent à l'épreuve leur santé mentale et leurs relations. Le centre commercial, symbole de consommation, devient peu à peu une prison et un miroir inquiétant de la société. Ce qui montre dans celui-là par rapport à La Nuit des Morts Vivants, c'est que les zombies en fait ne sont plus totalement déshumanisés mais retrouvent des réflexes humains.
Ouais, c'est selon les habitudes qu'ils avaient, c'est pour ça qu'ils viennent au centre commercial.
C'est ça, exactement. Tandis que dans La Nuit des Morts Vivants, on est vraiment sur le zombie qui sort de terre et qui vient hanter, du moins pas hanter, mais qui assaille les gens dans une maison, qui est aussi un huis clos que j'hésitais à prendre. Mais dans celui-là, on retrouve les bases de presque tous les films de zombies actuels, que ce soit la base de la survie, la mamaille, gérer une équipe avec des gens qui sont complètement différents, que ce soit des militaires.
Bien sûr.
Puis le danger qui vient aussi de l'humain et pas que ça. Des zombies.
Et la connerie humaine.
C'est
à un moment donné, le mec il prend des décisions personnelles sans consulter les autres. Pourquoi tu fais ça?
Et tu sais très bien que la connerie humaine c'est ce qui peut à la perte à chaque fois.
Mais exactement. Et moi j'avais jamais vu ce film, et je suis content que tu me l'aies fait. Découvrir,
oui, moi aussi, je suis content que tu aies découvert.
Mais on comprend tous les films sur les zombies infectés qui sont sortis après. Et à chaque fois, en fait, tous les nouveaux films qui sont sortis là, sur ce thème reprennent au moins un aspect de ce film.
Bien sûr, je suis entièrement d'accord. De toute façon, c'est là en plus par rapport au premier La Nuit des Morts Vivants, t'as vraiment l'aspect l'humain est aussi une menace que t'avais pas avant et qui est encore plus qu'une menace parce que les zombies en fait. Limite, ils en rigolent à la fin. Ils avaient manipulé parce que les zombies marchent doucement. Voilà quoi. S'ils font pas de la merde, ils se font pas choper. Ils arrivent à les mettre, à les gérer dans des salles et à créer même des plans en les mettant dans les salles pour les libérer au cas où on les attaque, etc. Voilà. Mais sinon, ce film-là était reconnu. Du moins, ça a été un chef-d'œuvre et ça a doublé Romero au style zombie et sorti le film de zombie de la série B, on va dire.
Il y a eu un remake de ce film.
Il y a un remake de Dawn of the Dead.
Je devais avoir 12 ans à l'époque.
Il est sorti fin 90, début 2000, je sais plus.
Je crois que 2000.
Parce qu'il y a un remake aussi du premier La Nuit des Morts Vivants qui a été réalisé par Tom Savini, mais c'est dans les années 90, je crois.
Après, pour moi, ce film, quand même, il reste c'est très en dents de scie.
J'allais venir au rythme après.
Ouais,
faut le voir plongeant dans les années 80.
Ouais, voilà, exactement.
Bah, exactement, parce que en fait.
C'est à 70, CSB, je sais pas quoi, etc. Et d'un coup. Là, hop, tu tombes sur une scène qui est extraordinaire.
Mais les centres commerciaux aussi, dans les années 70, c'est pas aussi... Du moins. Maintenant, ça se perd, les zones commerciales sont désertées à moitié et tout. Aux États-Unis, c'est vraiment un endroit familial, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais je l'ai trouvé vraiment en dentier, etc. Pareil, par rapport à des choix sur les personnages.
Ouais, bien sûr. Mais prend le temps, justement, de bien présenter les personnages. Après, certes, il y a des longueurs, on peut pas le nier, de toute façon. Après, les zombies sont longs en plus aussi, lents, je veux dire.
Mais à chaque fois, il y a une belle remontée avec une scène qui fait que ça t'accroche. Alors, au final, tu restes dans le film. Là-dessus, je l'ai bien aimé parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui de revoir des films des années 70.
Ça dépend en fait s'ils ont inspiré vraiment parce que pour moi, ça, celui-là a vraiment posé les bases des jeux vidéo, des films, de toute la pop culture.
Ça n'empêche que ça pourrait être dégueulasse.
Ouais.
Et effectivement, il y a certains passages qui sont un peu dégueulasses quand on vit, voilà. Mais il y a toujours cette qualité. où ça repart avec une scène qui est très très bonne, un jeu d'acteur très très bon,
ouais, les acteurs sont
avec
bons,
une idée à laquelle tu t'attendais pas et qui te remet dans le film. Et c'est ça que j'ai bien aimé.
C'est vrai. Et tous les personnages ont leur trait de caractère. Les personnages sont différents, il n'y en a pas beaucoup. On suit vraiment que 4 personnages principaux et ils ont chacun leur choix. Leur,
ouais, ils sont assez bien développés.
Leur background. Tu vois, la fille n'est pas potiche, ils sont pas.
Non,
puis les, filles, les militaires sont pas non plus dans l'extrême militaire.
Non, puis à un moment donné, voilà, elle prend conscience aussi que n'importe qui peut mourir et qu'à un moment donné, bah, va falloir que j'apprenne à piloter. Quoi.
Que ce soit même
c'est
dans
plutôt le journaliste qui est pas très doué là. Son copain.
C'est une trompette, c'est une trompette. Mais, et, mais pareil, mais en fait, tu dis ça. c'est une trompette, mais à un moment donné, en fait, il fait des trucs extraordinaires.
C'est lui qui a le choix de lâcher les zombies sur les motards.
Non, il a. Mais au début, tu fais oh là, c'est quoi ce roulé.
Mais sans lui, ils peuvent rien faire parce que c'est lui le pilote d'hélicoptère.
Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
Bah, et du coup, aussi, je voulais revenir au maquillage bleu sur les zombies. Ouais. Je sais pas si vous savez pourquoi ils sont bleus.
Non. Bah, la mort.
Ah non, non, c'est juste. En fait, c'est le maquillage. En fait, avec le rendu à la pellicule, c'était involontaire.
Ah ouais?
Ouais. C'est en post-prod qu'ils se sont rendus compte que ça ressortait bleu sur.
Ah ouais, genre.
D'accord, parce que du coup.
La nuit des morts vivants était tournée en noir et blanc. Et en fait.
Quand ils ont ajouté la couleur.
Ah non, là c'est zombies. Sur zombies c'était tourné en couleur. C'est juste que vu que c'est filmé à la pellicule, avec la. Merde, avec la photo. Du moins la photo de l'éclairage, on va dire. Ça fait que ça ressortait bleu sur la pellicule.
Ils ont fait
le test avant. Ils ont dû en faire, mais.
Ils se sont dit, ah tant pis.
Bon après, bah, c'est budget assez fauché. $500 000, ça semble énorme, mais. Ouais, ils ont galéré comme pas possible. Fallait louer, fallait privatiser un studio parce qu'en fait, le supermarché tournait la journée. Tu vois, donc ils allaient tourner après. Etc. Donc c'est un tournage quand même à la one again.
Installé, tout rangé, machin.
Ouais. Voilà. Sinon.
C'est un film assez long quand même. Hein.
Ouais, dure deux heures, mais. J'avais déjà vu plein de fois, ça faisait peut-être 10 ans que j'avais vu. Je les ai bien sortis, deux heures. Après, le truc, c'est qu'il faut aussi que ça prenne le temps, vu que les zombies sont très lents, faut que le rythme aussi.
Mais je te dis, très bon, très bon, très belle surprise. Avec 50 ans.
Il y en a eu tellement des films de zombies aussi, compris tous les.
Ce qui est intéressant, c'est, je te dis, c'est. Bah, à chaque fois, tu retrouves quelque chose qui a été repris.
Se dire que tu le regardes en se disant que ça a posé les bases de tous les autres, tu vois déjà. T'as un regard un peu plus.
C'était le but en mettant ce film-là, ça me fait plaisir. Si tu ne l'avais pas vu, moi je conseille ce film à tous les gens.
Bien sûr, mais clairement.
À partir de 12 ans.
Ouais, c'est
pas exemple, je pense que c'était interdit au moins de 16 ans. Mais
oui, maintenant, ils ont vu pire, les gamins à 10 ans.
Je l'ai vu. Non,
mais bien sûr, mettons du porno à 12 ans.
Non, mais.
Allez-y. Non, mais il se fait bouffer la carotide et tout. Non, 16 ans, c'est bien, 16 ans. Après, si toi-même tu vas aller le chercher avant 16 ans. Ok, ça c'est ton problème.
Ouais.
Mais moi je te conseille, 16 ans c'est bien.
Ouais.
C'est un conseil.
Non, bah t'as loupé ta vie après. Ouais. Bon, allez, on va passer à la musique. La musique du coup, bah, c'est celle du montage refait par Dario Argento pour la version européenne. Et la musique vient du groupe The Goblins. Chef d'œuvre. Un groupe génial. Et c'est le thème principal.
Et de retour dans Ciné Primitif, c'était le film présenté par Dahu.
Zombie, la bande-son des Goblins pour la version européenne.
Et au film suivant, je vous propose pour le thème huis clos Shining, sorti en 1980, réalisé par Stanley Kubrick, qui a fait aussi 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'avais présenté
pour le thème espace.
Orange Mécanique, dont on sert un peu de la musique pour l'intro de cette émission. Oui. Full Metal Jacket, qu'on a présenté aussi. Au scénario, Stanley Kubrick et Diane Johnson, d'après le roman Shining de Stephen King. D'ailleurs, Stephen King s'est un peu désolidarisé du film, on en reparlera peut-être après. À la distribution, on a Jack Nicholson, Vol au-dessus d'un nid de coucou, et Batman, que tu as présenté, Bobo. Puis plein d'autres films, en fait, même Easy Rider. Chez les Duval.
On aime beaucoup Jack Nicholson.
C'est vrai, on adore Jack Nicholson. C'est un peu le Jim Carrey maléfique.
Si je devais réincarner en un acteur de cinéma, ce serait Jack Nicholson.
Il doit y avoir des petits problèmes, quand même.
J'ai pas dit que j'avais pas de problème.
Je pense que ça aurait été pas bouliné.
J'aime beaucoup Jack Nicholson.
Là, on a aussi celle qui joue sa femme, chez les Duval, qui est joué dans Nashville et dans Popeye,
avec
apparemment.
Robin Williams.
Ouais. Danny Lloyd, donc le gamin. Pour le synopsis, Jack Torrance accepte un poste de gardien d'hiver dans un immense hôtel isolé, l'Overlook Hotel, où il s'installe avec sa femme et son fils Danny. Alors que l'hôtel se retrouve coupé du monde par la neige, Jack sombre progressivement dans la folie. Influencé par les forces mystérieuses du lieu, Danny, doté d'un don de clairvoyance appelé Shining, perçoit les horreurs passées et présentes de l'hôtel. Ça mêle un peu fantastique...
Complètement.
Enfin, on sait pas si c'est de la folie ou du fantastique.
Juste, t'es pas prêt.
Ouais.
Tu regardes le film, t'es pas prêt.
Ouais, tu sais pas.
T'es pas prêt. T'es pas prêt à ce que tu vas voir.
Il s'en passe des choses, ouais, c'est vrai, ouais.
Bah c'est, ouais, déjà dans le sens où t'es pas prêt, t'as la réalisation de Stanley Kubrick qui fait que
ouais.
tu prends ton temps pour arriver sur un truc où t'es pas prêt, quoi.
Oui.
Et après tu suis le truc où t'es pas prêt en prenant son temps.
Et une fois que t'as pris comme ça 3, 4, t'es pas prêt, t'arrives...
Et un cinquième, t'es pas prêt.
Ouais. Et tu sais même pas quoi en penser, tu sais pas si le père est fou, si la maison est hantée, enfin ça mélange un peu tout et...
Ouais, ouais.
Et dans le livre de Stephen King, je disais qu'il n'avait pas aimé le film, c'est notamment qu'il trouve que le personnage joué par Jack Nicholson n'a pas d'humanité du tout dans le film, alors que dans son livre, c'est un personnage complexe, etc. Il trouve qu'il a été bâclé.
Dans le bouquin que j'avais lu quand j'étais au lycée, c'est vraiment différent quand même. Après, pour le coup, tu as tout un truc avec la chaudière que tu n'as pas dans le film.
On en parle un peu, ouais.
Oui, ils en parlent un peu.
C'est une des émissions d'entretenir à chaudière.
Ouais, c'est ça. Mais t'as tout un truc avec la chaudière.
Rappelons-le, c'est un hôtel qui est pendant 6 mois.
Qui est fermé.
Fermé à cause de la neige.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Donc leur seul moyen de sortir, au pire, c'est une voiture à chenilles.
Voilà. Ouais. Donc l'entretien de la chaudière, c'est quand même un point très important de l'entretien de l'hôtel.
Mais l'enfant est toujours attiré dans le bouquin vers la chaudière et parle avec. Un esprit dans la chaudière, chose que t'as pas dans le film, mais ils retranscrivent avec le cuisinier, en fait.
Ouais, le cuisinier qui est un peu en connexion avec le gamin.
En fait, ils ont adapté. Après, moi, je suis contre le fait d'adapter un bouquin pour totalement pareil, si on t'en dit. Il n'y a aucun intérêt.
Ah oui, ouais, j'allais dire, voilà. T'es pour l'adaptation.
Oui, je suis pour une adaptation. Je suis pour faire plus large et adapter
enfin, tu prends l'histoire et après, tu l'adaptes comme tu veux.
Ah oui, parce qu'on n'a aucun intérêt.
Si effectivement, toi, t'as donné les droits pour que l'autre il fasse un film et il le fait pas comme toi, tu voudrais, et t'as donné les droits.
Mais surtout, c'est un chef-d'œuvre. Ils l'ont adapté après en format téléfilm. Ça suit plus ce bouquin. C'est pas mauvais, mais c'est pas...
Mais c'est pas Shining.
Non, c'est pas... Du moins, là,
Là, il y a un truc
et qui fait... Et Kubrick, son truc, de toute façon, c'est que des bouquins qu'il a adaptés. Tous ses films sont adaptés de livres, et il fait des adaptations à sa façon, et ça marche bien.
Mais très c'est fort. Son style, et tu m'excuseras, mais tu regardes Shining, et effectivement, moi, le mot-clé, c'est « t'es pas prêt ».
Ouais, et puis Jack Nicholson, quoi, enfin, il est complètement... il fait flipper dans ce film. Il est horrible.
Majestueux.
Ouais, franchement, il est incroyable. Majestueux. Et il y a un autre truc aussi, c'est que Stanley Kubrick est connu pour mettre la pression à ses acteurs. Donc Jack Nicholson, lui, était blindé, ça va, il a fait plein de films, ça l'a pas traumatisé.
Par contre, c'est la...
Chia Duval, elle a un peu plus...
Ouais, elle a pas du tout aimé.
Bah, ça a tué sa carrière, du moins, plus
bah, moi, après, fait, elle pleurait, il y a un making-of apparemment que j'ai pas vu, où on la voit pleurer, etc. Stanley Kubrick qui lui mettait la pression en disant qu'elle était mauvaise devant tout le monde, il disait aux autres de pas la consoler. Il y a des prises qui ont été faites, je crois, celle dans l'escalier avec la batte de baseball. 117 fois.
C'est ça.
C'est un des, c'est le record, peut-être plus actuellement, non, mais bah, c'est le record de prises.
Dans Kubrick, il y a eu tellement de films où ils ont fait, bah, peut-être pas 117 fois, mais il y a beaucoup de fois où c'est 60 fois la prise. Quoi. Parce
du coup,
tant qu'il n'a pas la perfection, il la refait.
C'est ça. Mais du coup, quand tu vois l'actrice craquer, tu te dis, ouais, ouais, c'est intense. Et bah, en fait, elle pleure vraiment. Elle est vraiment en crise de nerfs.
Ouais.
Je trouve ça assez fou.
Quand tu vois les tournages Apocalypse Now, c'est pareil, tu vois, c'est les mêmes périodes et c'est des tournages où les mecs se poussent à l'extrême.
Ouais,
c'était l'époque des tournages, du moins à Evan Hogan. Quoi. C'était,
Et d'ailleurs, il y avait Charlie Sheen qui était sur le tournage d'Apocalypse Now, quand, qui était gamin avec son
père. Et on voit ce qu'il est devenu. C'est d'une traumatisée aussi.
À 15 ans, Charlie Sheen, il fumait de la marijuana.
C'est un scandale. Stanley Kubrick était reconnu pour son perfectionnisme, mais il y a plein de films où ils ont fait les scènes plus de 100 fois.
Après, c'est vrai que les films, ils sont toujours parfaits. Les films de Stanley Kubrick, ils sont
beaux. Mais il n'y a pas des Director Scott après, il a fait son film et franchement, t'as quand même de la puissance au niveau de la réalisation, quoi. Je sais pas si tu te rends compte que l'hôtel est...
Mais tout est fou, les coulées de sang là et tout. Les jumelles, on s'en souvient. Enfin, il y a plein de trucs qui marquent.
Non mais Jack Nicholson. C'est un film référence que tu vois dans des clips musicaux, que tu vois c'est dans ça. D'autres films.
Qui a inspiré beaucoup de choses.
C'est une base.
Mais comme tu disais, t'es pas prêt à ce que tu vas voir. Et du coup, à sa sortie, il a reçu des critiques assez mitigées. J'avais lu un peu, il y a vraiment des trucs.
Toujours. Disais,
c'est un film de merde.
Kubrick, il s'est fait toujours bâcher par ses films.
Alors que maintenant, c'est l'un des films les plus reconnus. Je me demande même si c'est pas le film le plus aimé par
Mais non, mais quand t'es précurseur d'un truc, c'est-à-dire que tu chamboules les choses, les gens sont pas prêts, les gens. Mais il change les choses, il change les codes.
Il est pas précurseur d'un film. Il a utilisé ses techniques de tournage pour faire un film fantastique. Dans ses films, c'est toujours tourné pareil.
Oui, non, mais.
Sur certains thèmes.
Ça reste un précurseur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il pose des
là, bases. Oui, mais là où il a surpris tout le monde, c'est que dans sa technique de surprendre tout le monde dans tous ses films, bah là, c'est avec du fantastique aussi.
Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il est, enfin, chaque film est différent. Il a fait un film sur la guerre, Full Metal Jacket, un film fantastique, Shining, un film dans l'espace, 2001.
Oui, il a fait aussi Barry Lyndon,
Orange Mécanique.
Mais
il change de genre.
C'est sur la guerre aussi. Il a fait quand même pas mal.
Ouais, sur la guerre.
Et aujourd'hui, ça reste un modèle pour les réalisateurs. C'est la représentation du grand réalisateur.
Ouais, il touche à tout, quoi.
Voilà. Et donc,
il maîtrise
dans la perfection. Touche à tout, bah, tu as le fantastique, le film de guerre, tu as l'espace.
Ouais. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que ce film est génial. Donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le.
T'es pas prêt. C'est la première fois que tu le regardes, t'es pas prêt.
Et je vous propose de passer à la musique que j'ai sélectionnée. Donc, c'est le thème principal de Wendy Carlos et Rachel Elkind. Thank you.
Dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter le thème principal de Shining, film que je viens de présenter. Et on passe au film suivant.
The Lighthouse, réalisé en 2019, du moins sorti en 2019, un film de Robert Eggers. Le scénario est de lui et de son frère. C'est un film américain et canadien qui dure une bonne heure et demie, on va dire. Dans ce film, on retrouve que deux acteurs, Robert Pattinson et Willem Dafoe. C'est pas besoin de présenter forcément leur film.
Bah, non. Willem Dafoe, je suis un grand fan, parce qu'il a une gueule qui ne ressemble à aucune autre. Et Robert Pattinson, pour ma part, je l'ai trouvé extrêmement bon dans ce rôle. Et voilà, ça montre que c'est un acteur qui peut jouer
bon acteur.
J'avais énormément de choses et ça reste un très très bon acteur.
J'avais beaucoup d'a priori sur cet acteur il y a encore quelques années, parce qu'il a fait beaucoup de trucs pour ados, je crois.
Ouais, Batman est pas
et
mal.
Ouais, le Batman est bien.
Très très bon dans le Batman.
Et là, dans ce film-là, il est excellent.
Alors, le synopsis du film. À la fin du 19e siècle, un jeune gardien de phare arrive sur une île isolée en Nouvelle-Angleterre pour travailler sous les ordres d'un vieux gardien autoritaire. Alors que les jours passent, l'isolement, les tensions entre les deux hommes et les conditions extrêmes commencent à altérer leur perception de la réalité. Entre hallucinations, superstitions et folies grandissantes, la frontière entre réel et l'imaginaire devient de plus en plus floue. Ce film est particulier. Vous avez remarqué, il n'est pas filmé en 16:9 ou en cinéma.
Il n'y a pas de couleur.
Il n'y a pas de couleur, il est en noir et blanc. Alors, c'est du moins la grosse force de ce film, c'est vraiment le visuel, on va dire. Le parti pris de tourner en 4 tiers avec un ratio de 1:19.
Ce que j'ai aimé, c'est les dialogues.
Ouais.
Moi, vraiment, ce qui m'a plu...
Ah bah, les dialogues sont crus.
Et tu sens qu'il y a eu une recherche sur les dialogues historiques, sur les personnages. Ouais, exactement. C'est très bien joué.
Et puis les deux personnages avec lesquels t'as pas envie d'être sur une île comme ça. Il y a le vieux qui pète et le jeune qui est un peu fou, qui cache beaucoup de choses.
Faut voir ce qu'ils boivent. Ouais. Je sais pas ce qu'ils boivent, mais ça doit être
un truc ignoble
à 65, 70 degrés, imbuvable. Et il se torpille à ça. Ouais. Non.
Et il passe des semaines
En fait, la notion du temps, on l'a pas vraiment.
Ouais, c'est ça.
Même eux, ils savent pas trop. Au final, à la fin, à force de prendre des cuites, ils disent on les a loupés, on ne s'est pas réveillés.
Mais dès le début du film, il te dit on est parti pour 4 semaines.
Ouais.
4 semaines, et au final, au bout de 20 minutes du film, ils ont pris une cuite, ils disent ah, je crois qu'on a loupé le bateau. Mais en fait, t'as pas eu l'impression qu'il s'est passé 4 semaines. Enfin, c'est exactement. Et dans le film, t'es perdu dans le temps.
Mais ce film est très... c'est la première fois que je prends un film que j'avais jamais vu. Alors et moi, pour une fois, j'avais envie de voir un film que j'avais pas...
Mais tout à fait, moi, je vais te dire une chose, je l'avais pas vu non plus. J'étais complètement passé à côté, et belle surprise.
Ouais.
En fait, je trouve que la performance, sur la réalisation du film, la performance d'acteur est parfaite. Sur le scénario... Ouais, non, ça va, il est bien aussi. Non, ouais, franchement, non, le film est plus coqué, il n'y a pas de souci.
Des coups de folie, là. Il fait des trucs complètement tordus, des fois. Le mec qui éclate une mouette.
Ouais,
ça, cette scène. Oh
Ouais, il y a plein de scènes comme ça. Il l'a dit trois fois avant.
Ah, ça, mais.
Porte-malheur.
Il éclate.
Ouais. La mouette est. Non, mais ouais. Non, c'est chaud. Mais c'est un film, excuse-moi. Et avec deux excellents acteurs avec de très très bons dialogues.
Mais, alors là, ouais, pour le coup, les acteurs portent vraiment le film. Moi, je trouve que la photo et le ratio d'image fait que. Je sais pas, il y a une âme à ce film. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec cette nouvelle vague de l'entre-fantastique et réel. Parce que c'est pas, je veux pas dire que c'est une facilité pour montrer la folie, tu vois. Parce que t'as quand même des trucs pas... T'as une imagerie sur le divin, par exemple, avec quand il dit que c'est pas Poséidon, c'est...
Neptune.
C'est Neptune. Neptune viendra et tout. T'as la pose de Neptune, oui. William Dafoe qui fait Neptune. Et t'as une belle imagerie et tout. Au contraire, tout ça, c'est parfait. C'est peut-être un peu facile, en fait, du moins dans le...
Je comprends ce que
la
tu
technique,
veux dire.
La technique est parfaite. C'est juste dans le... La technique de montrer la folie, du moins la manière de scénariser la folie.
Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il serait et puis c'est plus un peu plus complexe. Ouais, ça aurait été un peu plus caché, un peu plus complexe sur la folie.
Ou que... soit l'assumer direct, mais au final, la progression... Enfin, le film est bien, et ouais. C'est vraiment un petit détail, c'est pas... Ouais, c'est... Moi, je pense que c'est un film à voir, en tout cas.
Ouais, non, mais super sympa, en plus.
Si vous aimez la mer et l'isolement... Ouais, bon. Bon, voilà. Du coup, c'était The Light... The Lighthouse, la musique est de Mark Corven, c'est...
Stranded.
Le nom du morceau, c'est Stranded.
Ouais.
Et on se retrouve encore dans Ciné Primitif avec le film présenté par Dehu, c'était la musique
de The Lighthouse.
Bobo.
Ouais, aujourd'hui je vous présente un chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre mot. Shutter Island, sorti en 2010, réalisé par Martin Scorsese. Shutter Island est tiré du roman de Denis Lehan, dont deux autres romans, Gone Baby Gone et Mystic River, ont été adaptés au cinéma.
Les deux sont cool.
Mais bien sûr. On parle quand même de Martin Scorsese, que j'avais déjà présenté avec Les Affranchis. On parle pas de n'importe qui quand
Casino
même.
Casino aussi.
Ouais, mais un cran en dessous des Affranchis quand même.
Je suis d'accord. Casino. Pas pour tout, mais...
Ouais. La distribution sur Shutter Island, on a quand même Leonardo DiCaprio. Avec sa quatrième collaboration avec le réalisateur qu'on a pu voir dans Aviator, Gangs of New York ou encore Les Infiltrés. On a Mark Ruffalo qui joue quand même Hulk.
Et qui a joué dans Eternal Sunshine, The Spotless Mind.
Mmh. Ah oui,
ouais.
Je m'en souviens plus.
Très bon film. Le conjoint de l'autre, du moins.
Oui, il a un court passage.
Ouais, un court passage. Mais voilà, ou sinon on le voit dans le film avec les magiciens.
Insaisissable.
Insaisissable.
Quelle merde, ce film, pas vu.
Voilà, non mais attends.
Jamais regardé.
Je dis juste qu'il est dedans, voilà.
Oui. Ouais.
Mais au final, sa performance dans le film, elle est très 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 bonne, malgré ce qu'il a pu faire à côté. On a Ben Kingsley et surtout le Max von Sydow, 60 ans de carrière, qu'on a pu voir dans Judge Dredd, que je vous ai présenté quand même.
Sur le super héros.
Ouais. Qui joue le juge suprême et Minority Report. Très 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 bon film aussi. Shutter Island, je vous présente un petit peu le synopsis. Donc en 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Œuvre incohérente d'une malade ou cryptogramme. Le synopsis, franchement, j'ai envie de vous dire, il vous apporte rien. Ouais. Et moi, si je peux dire un truc sur ce film, c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois.
C'est vrai.
Bon. Bref, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il est extrêmement complexe. Ça part sur du nazi, ça part sur, ouais, sur de l'enquête policière, ça part sur plein de choses, en fait. Et il y a un tel mélange de possibilités.
Encore un peu la folie aussi omniprésente, forcément, sur un hôpital voilà, psychiatrique.
Exactement. Et t'es sur une île dont tu ne peux pas t'échapper. Hein,
oui, reste un point commun avec tous nos films, c'est la folie, je crois, ou d'un moment.
Ouais, bah, bien sûr.
L'isolement entraîne la folie.
Bien sûr, l'homme n'est pas fait pour rester enfermé. Hein. Mm. Donc, j'adore ce film, c'est un véritable chef-d'œuvre. Et excusez-moi du peu, il y a une performance de DiCaprio qui est extraordinaire sur ce film.
Comme souvent.
Voilà, après, j'avais une petite annotation sur le fait que il y a eu un problème au niveau de la sortie qui était prévu au mois d'octobre, mais Paramount a prolongé jusqu'au février 2010 au lieu d'octobre 2019, et ce changement de date les a éliminés pour la course aux Oscars. Mais il y a pas.
Je pense que franchement, il est bon. C'est des films qui auraient mérité les Oscars, certes. Après, faut toujours voir ce qu'il y a en face. Hein.
Non mais je suis totalement d'accord. J'ai pas regardé effectivement.
Justement, ils l'ont peut-être pas sorti au mois d'octobre pour éviter de se faire rouler dessus par un autre film concurrent.
Le film s'est déroulé dans un hôpital psychiatrique désaffecté du Massachusetts. Et après, on retrouve quand même parmi les prisonniers Ted Levine et John Carroll Lynch qui avaient tous les deux joué des serial killers dans Le Silence des Agneaux. J'aime ce film et j'aime la fin. J'aime le personnage. J'aime tout.
Ouais.
Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Voilà, du début à la fin, c'est très bien construit, c'est très bien joué, les dialogues sont beaux, le synopsis est fantastique.
Oui, donc, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Moi,
c'est vrai, je trouvais que les 2h30 de ce film-là passaient plus vite que 1h30 de Buried.
Mais j'aurais bien aimé avoir oublié pour le revoir encore.
Ouais, c'est ça, la découverte.
Parce que là, du coup, je cherche des détails partout que je connais pas, et au final, j'en trouve pas, des fois.
Voilà, après, sur la musique d'Oliver Rohrbeck, d'une manière générale, j'ai choisi la symphonie numéro 3 de Passacaglia, voilà, qui est le thème principal.
Et on se retrouve dans Ciné Primitif. C'était le film présenté par Bobo.
Oui, Shutter Island. Et on passe à la suite avec Reservoir Dogs, le dernier film de notre émission.
Yes. Alors, un film sorti en 1992, réalisé par Quentin Tarantino, bah, qui a fait Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds, Les 8 salopards, etc. Le scénario est de Quentin Tarantino et c'est son premier film à la réalisation. Il avait déjà fait au scénario True Romance, que j'avais présenté pour le thème Mafia. À la distribution, on a Hervé Keitel, qui a joué dans Pulp Fiction, Taxi Driver.
Bad Lieutenant.
Magnifique, Hervé Keitel.
Grave.
Tim Roth, qui a joué aussi dans Pulp Fiction, Lie to Me. Michael Madsen, qui a son âme, qui a joué dans Kill Bill.
Oh, Donnie mort,
Brasco.
Oui, ah, oui, il est mort il y a 3-4 ans. Ouais.
Ouais. Steve Buscemi, lui je l'adore aussi.
Qui a joué dans Steve Buscemi.
Qui sait qu'on n'aime pas dans le casting. Pardon.
Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on les aime tous.
Ouais.
Il a joué dans Fargo, The Big Lebowski.
Et
il y a une réplique dans le jingle.
Le frère de Sean Penn.
Ouais.
Ouais,
qui a joué dans True Romance, du coup.
Ouais, qui
et
était, qui était très 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 bon, qui était même meilleur que Sean.
En tout cas, pour le petit synopsis, après un braquage de bijouterie qui tourne mal, les survivants se retrouvent dans un entrepôt pour comprendre ce qui s'est passé. Très vite, la paranoïa s'installe, l'un d'eux serait un informateur. Le film se concentre sur les tensions entre les criminels, leurs soupçons et l'escalade de violence, tout en révélant progressivement les événements du casse à travers une narration non linéaire. Et on voit jamais vraiment, d'ailleurs, le braquage.
Non, c'est pas le plus important.
Il n'y a pas
non.
de braquage. Il y a juste la sortie du braquage.
Oui, voilà, c'est ça. On voit ça. Et après, c'est leur version, chaque fois, qu'ils racontent quand ils se retrouvent dans cet entrepôt. Et tout le monde se soupçonne un peu. Il y a une taupe, on le sait. Il y en a qui sont morts. Il y en a, on ne sait pas s'ils sont encore en vie.
Ah, puis on trouve surtout bah, ce qui va faire la gloire de Tarantino, les films chapitrés.
Ouais.
Genre là, t'as le chapitre sur Mr. Orange, ouais, le chapitre sur lui, et de toute façon, il a toujours marché comme ça. Tu vois, pour le dénouement, tu.
Bah,
t'as ça, après tu prends tes post-it, tu les mélanges, voilà. Et tu en fais.
Tu reconstruis ton histoire.
Et c'est vrai qu'on voit bien que c'est du Tarantino, ne serait-ce pas ouais. que par les dialogues.
Bah, complètement. Les dialogues, oui, dialogues.
Peut-être les dialogues
c'est
plus toujours les mêmes. Enfin, toujours la même mécanique de dialogue, des personnages qui ont des forts.
Ça caractère sur un gros plan séquence où ils parlent tous autour de la table de la chanson de Madonna.
Après, du
oui, après du pour Barça, enfin, au début c'est sur Madonna, la chanson Like a Virgin, oui. Qu'elle veut des grosses tubs. Et...
Ouais, c'est ça, c'est assez cru, c'est ouais. vulgaire.
C'est l'interprétation de la musique, voilà. Ouais. C'est une bande de truands, quoi. Et... Donc à un moment donné, t'es pas sur un débat philosophique.
Ah non, bien sûr, mais c'est ce que Tarantino arrive à saisir, c'est une scène de vie à chaque fois dans. Ouais. Les personnages, on les présente pas vraiment.
Tu vois la personnalité de chaque personnage à travers des dialogues
ce dialogue, pour en venir après à la scène du pourboire qui est dans la même séquence, où là, t'as vraiment toute la... Comment ils vont réagir chaque personnage dans les situations qui vont suivre.
Et puis, t'as quand même une belle organisation, les mecs, ils prennent des précautions, enfin tu vois, tu sens que c'est pas des amateurs, tu sens que c'est vraiment du professionnalisme et que même en étant professionnel, même en faisant attention à tout, même en ne donnant pas de nom, même en ayant des surnoms, etc., ils se retrouvent dans la merde.
Ouais. Il y en a qu'un qui veut pas.
Et ça, c'est extraordinaire.
Mais après, ils sont un peu débiles sur certains choix aussi, tu vois. Il y en a un qui donne son nom, il y en a un qui respecte pas toutes les règles, il y en a un qui est un peu trop psychopathe, qui tire dans la foule.
Ils sont bien affectés, oui.
Chacun est différent.
Il y a que celui qui est un peu parano, en fait, qui a raison. Et... En tout cas, il y a quand même un combat de balls, de couilles entre tous ces personnages.
Ah bah bien sûr, hein, ça pue la masculinité. Hein.
C'est ça.
Alors, de toute façon, comme tous les films de Quentin Tarantino, t'as une bande-son aussi...
Qui est géniale.
Qui est géniale et qui rythme tout le film. Hein. Sans la bande-son, ces films, ça serait pas pareil.
Et c'est souvent décalé par rapport à ce qui est montré à l'écran.
Bien sûr.
Après, moi, j'avais juste un dernier truc à dire sur Reservoir Dogs. J'adore, je le trouve exceptionnel. Ce qui suit, c'est-à-dire Pulp Fiction et... meilleur.
Moi, ce qui m'impressionne le plus sur Reservoir Dogs, c'est quand même t'as un casting.
Ouais, qui est
3 étoiles. 5 étoiles même.
5 étoiles avec son premier film, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il a un sacré casting. Ouais.
Quand t'es bon, t'es bon.
Mais il avait déjà écrit le scénario, il avait déjà un pied dans Hollywood.
Oui, il avait déjà, ouais, trop romance. Ouais,
en fait. Mais après, peut-être que. Voilà, moi je mets quand même un cran au-dessus Pulp Fiction par la suite. Et sur le.
Pas les mêmes budgets. C'est sa vraie masterclass. Ouais, celle-là, ouais, c'est celle qu'il a propulsée, ouais, qui est ça. Vraiment trop bien.
C'est son premier, c'est très bien de l'avoir pris. C'est,
oh, bah j'adore,
c'est du brut. C'est le premier album de Metallica, quoi. Tu vois, c'est brut, c'est pur.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, c'est ça. Non, mais
il y a un seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il joue dans son propre film et il joue mal. Non. Et il le fait déjà dans.
Il joue toujours mal.
Ouais,
il joue toujours
et
mal.
Du coup.
Mais tu t'en fous.
Non.
Tu t'en fous. Mr. Brown, tu t'en fous.
C'est vrai que c'est très court.
Voilà, tu t'en fous de Mr. Brown.
Mais non, sinon le film est cool.
Oui.
Mais si vous avez plus rien à dire sur ce film, je vais déjà présenter la musique et puis on fera la roulette pour choisir le prochain thème.
Oui.
Donc la musique que j'ai choisie forcément, c'est le groupe Steelers With avec Stuck in the Middle With You, un morceau culte qui est associé à une des scènes les plus marquantes du film. La plus marquante, je pense. Et du coup, je vous propose qu'on passe à la roulette.
Avec la scène d'intro.
Le prochain thème... pour signer Primitif sera Slasher.
Et si vous êtes pas prêts, il va y avoir du tueur en série, mesdames et messieurs.
Des ados qui vont mourir, forcément, ce Slasher. En attendant, on se quitte avec la musique de Reservoir Dog, Stuck in the Middle with You.
Et avec grand plaisir au mois prochain.
Et on se fait des bisous au mois prochain.
Allez.
Avec les Slasher.
Ciao, ciao. Au mois prochain. Smile.